Je vous invite à partager ensemble un texte de la parole de Dieu dans le livre de la Genèse au chapitre 35, à partir du verset 1 au verset 15. Genèse chapitre 35, à partir du verset 1 au verset 15. Et le thème de la méditation de ce matin, c'est « Habiter dans la présence de Dieu ». Qui veut habiter dans la présence de Dieu? Non pas 5 minutes, non pas 10 minutes, non pas le temps d'un culte, parce que là, alors on essaierait toujours de rallonger, on répéterait les chants avec 1, 3, 4, 5, 10, 15 fois pour dire plus on reste, plus on est dans la présence du Seigneur. Non, la volonté de Dieu, c'est qu'on y habite, qu'on demeure dans la présence de Dieu. Et ce n'est pas lié au nombre de fois qu'on va chanter un chant. C'est lié au nombre de fois que finalement nous apportons notre cœur au Seigneur, de la manière où nous restons dans la présence du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous le fruit d'une méditation que le Seigneur a posée sur mon cœur. Et nous prenons l'histoire d'un homme particulier dans lequel nous pouvons nous aussi certainement trouver certaines ressemblances. Pourquoi ? Parce que le cœur de l'homme est le même pour tous. Amen. Qui aimerait être appelé Jacob ? Ah, pas trop. Qui voudrait être appelé Israël? Hein, mais il faut quitter Jacob. Il faut accepter finalement de quitter notre ancienne manière de vivre pour entrer dans la nouvelle. Alors, voyons comment Dieu a fait les choses, parce que finalement, c'est Dieu lui-même qui nous invite à rentrer dans sa présence. Ce matin, mon frère, ma sœur, le Seigneur te dit « rentre dans ma présence ». Oui, mais je suis converti depuis X années. Mais est-ce que tu habites dans sa présence? Il y a une différence. Il y a un chant que nous aimons chanter qui dit une chose que je désire ardemment. Et vous voyez, quand nous chantons ce chant, nous avons l'impression que notre poitrine, elle s'ouvre, elle explose, parce que c'est finalement le désir de notre cœur. Et certains disent, mais oui, un jour, on sera dans la présence du Seigneur. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, ce n'est pas un jour, c'est aujourd'hui. C'est maintenant que le Seigneur veut déjà que tu habites dans sa présence. Après, un jour, tu le verras, face à face. Mais aujourd'hui, dès à présent, le Seigneur t'invite à habiter dans sa présence. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et habite-y. Là, tu feras un autel à Dieu qui t'apparut lorsque tu étais en fuite devant ton frère Ésaü. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous leverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel à Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient dans leurs mains, ainsi que leurs boucles d'oreilles. Jacob les enfuit sous les térébintes qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes environnantes et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est à Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela cet endroit El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il était en fuite devant son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et fut ensevelie au-dessus de Bethel sous les chaînes qu'on appelait du nom des chaînes des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son arrivée à Padan Aram et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob, mais on ne te donnera plus ce nom de Jacob. Ton nom sera Israël, et lui donna ainsi le nom de Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie-toi, une nation et une foule de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai, et à ta descendance après toi, je donnerai ce pays. Dieu s'éleva au-dessus de lui à l'endroit où il lui avait parlé. Et Jacob plaça une stèle à l'endroit où Dieu lui avait parlé, une stèle de pierre sur laquelle il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel à l'endroit où Dieu lui avait parlé. Amen. La première chose dans ce texte, il est moment de ce partage entre Dieu et Jacob. Jacob avait déjà entendu la voix de Dieu. Jacob qui avait finalement été entre peu l'objet de discorde dans un couple, le père et la mère qui avaient des visions différentes des choses, et la maman finalement conduit Jacob à agir d'une manière qui n'est pas régulière pour prendre la bénédiction, pour prendre ce qui ne lui appartenait pas. Et Jacob, alors qu'il a pris ce qui était à son frère, ce qui lui revenait de droit, Jacob est amené à partir, à courir, à fuir. Jacob, il a une attitude qui n'est pas celle d'un chrétien, en tous les cas celle qu'un chrétien ne devait pas avoir. Et ça au-delà du prénom. Parce que je ne voudrais pas que si quelqu'un ce matin, ici même, ou en écoutant ce message sur Internet, se dit « moi je m'appelle Jacob, donc non ». La question n'est pas le prénom. La question c'est l'attitude du cœur. Et Jacob a fui, Jacob il a essayé finalement d'utiliser ses capacités, ses qualités de bon parleur, mais aussi de stratège. Et en même temps dans la vie, pas seulement lui il va faire des coups bas, mais il va en recevoir. Parce que vous savez, on récolte ce qu'on a semé. Et Jacob va récolter lui aussi certaines choses et il va vivre certaines souffrances et il va se retrouver lui aussi face à certaines réalités qu'il pensait que finalement il pouvait faire aux autres mais que jamais il aurait été lui atteint. Il y a des choses dans la vie qui nous atteignent alors qu'on ne les veut pas. Il y a des difficultés, des problèmes qui nous atteignent alors qu'on ne les veut pas. Mais malheureusement, bien souvent, nous avons fait tout pour. Il faut être conscient qu'il y a des choses qui nous arrivent parce que c'est les conséquences de nos actes et de nos choix, de nos décisions. Et Jacob, il doit prendre part à ses décisions. Il doit finalement prendre le poids de ce qu'il a fait. Mais Dieu étant un Dieu de miséricorde et ayant été ce Dieu de toute puissance qui avait déjà des projets pour Jacob, malgré que Jacob encore il avait besoin de vivre certaines transformations, Dieu lui parle. Dieu agit d'une manière incroyable. Et alors que Jacob est en train de fuir, il arrive dans un endroit où il se dit « ben là je vais pouvoir me reposer » et Dieu lui parle. Une vision incroyable. Une échelle qui arrive jusqu'au ciel, des anges. Ah, qu'est-ce qu'on aimerait avoir des visions comme ça, non? Ne soyons pas de ceux qui fuient comme Jacob, en espérant que Dieu nous parle comme il a parlé à lui. Mais sachant que Dieu parle à tout être humain qui finalement voudrait et désire dans son cœur restaurer une certaine paix. Jacob, il est parti, il a fait sa vie, mais vous savez, quand on part avec nos problèmes, généralement les problèmes s'invitent dans nos valises. Quand quelqu'un part sur un différent, quand quelqu'un part sur une incompréhension, quand quelqu'un part sur une colère, et qu'il ne la règle pas avant de partir, ce problème s'invite dans ses valises. Et parfois, ils peuvent passer plusieurs années, mais le problème, il n'est pas réglé. On peut déménager de plusieurs reprises, mais les problèmes nous suivent. On peut avoir cherché toutes les églises et les meilleures qu'il y a au monde. Parce que chose étonnante, c'est l'église qu'on a quittée, elle n'était pas bonne. La nouvelle est la meilleure. Et après, finalement, elle n'était pas si bonne que ça. Il y en a mieux. Moi, je me dis que le problème n'est pas l'église. Le problème, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les frères et sœurs. Le problème, c'est nous. Et Jacob, finalement, il se trouve lui aussi à devoir faire un constat dans sa vie. Le problème, c'est lui, c'est Jacob. Et d'ailleurs, Dieu parle à Jacob et lui dit « Maintenant, monte à Bethel ». Là, finalement, où je t'ai apparu. Je dirais que les étapes de la préparation spirituelle pour rencontrer le Seigneur et finalement avoir un cœur à cœur avec Dieu, elles ressortent dans ce texte. On désire chacun d'entre nous, quand nous venons dans ce lieu, mais même quand nous ouvrons notre Bible, quand nous prions, avoir un cœur à cœur avec Dieu. C'est juste ou pas ? Mais il y a quand même quelque chose dont on doit être aussi conscient, c'est qu'on s'approche de celui qui est saint et peu importe le lieu où nous le faisons, Dieu demeure saint. Quand Moïse se trouvera à être interpellé par le buisson ardent et il s'approchera, L'Éternel lui dira, ôte les souliers que tu as à tes pieds, parce que le lieu où tu te trouves, il est saint. Quand Josué, il sera finalement face au chef de l'armée de l'Éternel, alors qu'il a juste en face Jéricho, le chef de l'armée de l'Éternel lui dira, enlève tes souliers, le lieu où tu es, il est saint. Mes frères, mes sœurs, quand nous nous approchons de Dieu, considérons que le lieu, pas le lieu géographique, mais la dimension spirituelle dans laquelle nous nous trouvons, c'est un lieu saint. Et nous avons besoin, chacun d'entre nous, finalement, de revoir notre manière d'être. Et d'ailleurs, vous avez vu dans le texte que nous avons lu, finalement, Jacob donne des choses, ordonne des choses à sa famille, à sa maison, à ceux qui partageaient le voyage avec lui, ceux qui étaient avec lui pour cet avenir en Dieu. Nous avons un avenir avec Jésus-Christ. Mais nous devons accepter aussi d'abandonner un certain nombre de choses et aussi encourager ceux qui nous entourent, ceux qui sont avec nous, à faire de même. Et Jacob lui dira, finalement, il est question pour chacun d'entre nous d'enlever tout ce qui est des dieux, des faux dieux, des dieux étrangers, de tout ce qui est finalement qui nous éloigne de Dieu. Et dit le texte qu'ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, ainsi que leurs boucles d'oreilles. Et Jacob les enfouit sous les térébintes qui est auprès de Sichem. En réalité, Jacob, avant d'aller se présenter devant Dieu, fait le ménage. Il y a des choses qu'il faut éliminer de notre vie. Il est question d'abandonner et de reformer notre vie en Christ. On a besoin de réformes personnelles. On est très fort à regarder ce qu'il faut réformer ailleurs, ce que les autres doivent réformer. 1 Samuel chapitre 7, verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartès. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui seul. Alors, il vous délivrera de la main des Philistins. » Mais avant, commencez à faire un certain ménage. Les étapes de la préparation spirituelle, c'est le fait déjà d'abandonner et de réformer notre vie. Alors on pourrait dire, oui, mais moi, je n'ai pas de statue à la maison. Pas besoin de statue. Il y a plein de choses qui peuvent devenir un idole. Tout ce que finalement prend la place de Dieu dans notre vie. Un jour, alors que j'étais en Alsace, un couple était de passage et ce couple me demande de pouvoir prier pour eux. Et je dis à la femme, je ne peux pas prier pour vous. Elle me dit, pourquoi ? Parce que j'ai dit, votre métier, c'est faire de la voyance et lire la main aux gens. Elle dit, qui c'est qui vous l'a dit ? Quand on se présente devant Dieu, Dieu parle. Et on ne peut pas penser, excusez-moi, de manger à deux endroits, dans deux assiettes, à la table du Seigneur et à la table de Satan. On ne peut pas vouloir rester dans certaines pratiques pour gagner, entre guillemets, notre vie, aux dépens des autres, en amenant les autres dans des erreurs, dans des fautes, et on les finalement les liant au projet de l'ennemi, et nous en sortir indemnes. Il est question de réformer notre cœur et notre vie. On ne peut pas vivre dans le péché et croire que Dieu, forcément, il va agir comme si rien c'était, parce que ce n'est pas trop grave. Parce qu'on a finalement banalisé un certain nombre de choses. Et Samuel, il a dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez lui seul. Diriger notre cœur vers le Seigneur, ça veut dire faire de lui nos délices et, il dit la parole de Dieu, alors il te donnera tout ce que ton cœur désire. Alors ne vous attendez pas que Dieu vous donne ce qui n'est pas utile. Ah Seigneur, je désire une belle voiture. S'il pouvait être de ces couleurs avec ce petit logo avec un cheval. Et le Seigneur me dit, tu n'as pas besoin d'un cheval, il va me donner un âne. Il dit, comme ça, tu évites les PV. Parce que Dieu pense à moi. Non ? À quoi servirait un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Croyez-moi, certes que le Seigneur veut donner ce que notre cœur désire, dans la mesure où ce que notre cœur désire est selon la volonté de Dieu. Amen. Et là, Dieu nous donnera même au-delà de ce que nous attendons. Deuxième chose, la première, on a dit abandon des idoles et réformer sa vie. La deuxième, c'est la purification. Il est question de purifier, vérifier, séparer, remettre en état. Parfois, vous savez, on a même, excusez-moi de dire cela, et c'est une réalité, on a même souillé le temple. Et après, on y va, on dit, ouais, mais Seigneur, je ne comprends pas, je suis venu te prier dans ta maison, mais qu'est-ce que tu as fait avant ? 2 Chroniques, chapitre 29, versets 15 à 19. Ils assemblèrent leurs frères, et après s'être sanctifiés, ils vinrent purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel jusqu'à dans les parvis de la maison de l'Éternel où les Lévites les récurèrent pour les emporter dehors dans le ravin de Cédron. Ils commencèrent à sanctifier le temple le premier jour du mois. Le huitième jour du mois, ils entrèrent dans le vestibule de l'Éternel et mirent 8 jours à sanctifier la maison de l'Éternel. Les 16 jours du premier mois, ils avaient achevé. Ils entrèrent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent « Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses accessoires, la table aux rangées de pain et tous ses accessoires. Nous avons remis en état et sanctifié tous les objets que le roi Ahaz, dont son infidélité, avait profanés pendant son règne. Ils sont devant l'autel de l'Éternel. » Il a fallu d'un homme pour finalement perdre la présence de Dieu. Il a fallu d'un homme pour finalement mettre le peuple tout entier en porte-à-faux avec la volonté de Dieu. Il a fallu d'un homme, comme dans d'autres circonstances, il a fallu d'une femme. Soyons au clair, non ? On ne va pas dire « Ah, les hommes, les hommes, les hommes ». Comme ça, à midi, il n'y aura pas de discussion. Et si finalement, on ne s'était pas bien comporté ? Et si finalement, on ne s'était pas bien tenu et nous avions quelque part disqualifié l'ensemble par nos agissements, par nos décisions, par notre caractère. J'ai du caractère. Il y a des années, cela, j'ai rencontré une jeune femme qui avait des gros soucis de santé. Et lors du premier rendez-vous, elle m'a dit, vous savez, moi, j'ai reçu une chose de mon père, j'en suis fier, c'est un sale caractère. Alors je lui ai dit, tu sais, parmi tous les cadeaux que ton père aurait pu te faire, celui-là, il aurait pu éviter quand même. Il dit, moi j'ai la rage, je ne laisse passer rien. Je lui ai dit, ça t'a amené où aujourd'hui ? Elle ne pouvait pas sortir de chez elle. Elle était remplie de toc. Elle était obligée de se laver les mains constamment. Elle se lavait constamment, elle utilisait des produits qui finalement ont causé plein de soucis dans son corps. Elle était dans un état pitoyable. Elle ne pouvait pas travailler, elle ne pouvait pas prendre soin de son enfant, elle ne pouvait pas prendre soin de son foyer. Tout ce qu'elle faisait, c'était se laver du matin au soir. Finalement, vous voyez certaines choses, certains héritages où peuvent nous amener. Et au premier rendez-vous, moi, je lui ai dit, écoute, moi, je ne peux rien pour toi. Mais Dieu peut tout. Ah, moi, je ne crois pas en Dieu. Je lui ai dit, libre à toi, mais tu resteras dans ta condition. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas d'autre solution à te proposer. Je lui ai dit, je n'ai pas de recette miracle, j'ai Jésus. Ah, mais moi, je ne veux pas. À toi de voir. Je lui ai dit, moi, je vais continuer de prier pour toi. Et le jour où tu auras compris, tu auras saisi, et que tu en auras marre de vivre dans ta rage, et comme tu le dis dans ton sale caractère, tu m'appelles. 3 semaines plus tard, je reçois un coup de téléphone. Il me dit, est-ce que vous pouvez venir me voir ? Je dis, bien sûr, pas de souci. Donc, je vais la voir, je discute un peu avec elle. Je dis, alors, explique-moi, pourquoi tu veux que je vienne te voir? Ben, je suis toujours dans mes problèmes. OK. Et quelle solution tu prévois? Ben, il dit, moi, j'ose pas demander à Dieu puisque j'y crois pas. Mais est-ce que vous, vous pouvez prier puisque vous, vous y croyez? Je dis, oui, certes, moi, je peux prier et la preuve, c'est que je prie pour toi. Autrement, aujourd'hui, on ne serait pas là. Mais le fait que moi, j'y crois et que toi, tu n'y crois pas, Dieu ne peut pas parce qu'il respecte ton choix. Et là, elle s'est mise à pleurer. Et là, elle m'explique qu'elle avait perdu son frère et que son frère, il était chrétien, mais qu'il avait manqué de sagesse et qu'il avait fait des choix qui avaient finalement amené à sa mort physique. Elle m'a dit, chose incroyable, mon frère est parti avec un grand sourire. Et il dit, et moi, je suis resté avec la rage. Et là, je lui ai expliqué, tu vois, malgré les choix que toi, tu considères erronés de la part de ton frère, parce que moi, je ne peux pas juger, s'il est parti avec le sourire, c'est que lui, il a abandonné l'héritage de ton père pour prendre l'héritage de Dieu. Et toi, parce que tu demeures dans l'héritage de ton père, tu restes dans la rage. Tu restes dans la souffrance, tu restes dans la peine. Et ce jour-là, cette jeune femme, elle a dit, écoute, je ne sais pas comment faire, mais je veux changer. Et on a simplement prié. Elle m'a dit, si je te rappelle, est-ce que tu viendras? Je dis, pas de souci. Et du coup, on avait un rendez-vous presque tous les 15 jours. Ça me faisait 3/4 d'heure de route pour aller la voir, 3/4 d'heure pour revenir, mais ce n'est pas un souci, non? À la troisième fois que j'ai pu aller la voir, je lui dis, alors, comment tu vas? Elle dit, je ne comprends pas. Ça va un peu mieux. Je me sens beaucoup plus apaisée. Elle était déjà souriante, alors que les deux premières fois, je ne vous dis pas la tête d'enterrement. Plus souriante. Elle m'a dit, ça va mieux. Et la petite, elle vient me voir, me dit, oh, elle est mieux. Elle est mieux. Et son compagnon, il me regardait et me disait, merci. Et là, on a commencé à parler de ce que Dieu attendait d'elle. Elle a commencé à faire du ménage dans son cœur, dans sa maison. Avec son compagnon, ils ont pris la décision de se marier. Les médecins lui disaient qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Moi, je lui ai dit, écoute, les médecins peuvent dire ce qu'ils veulent. Le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. Vous pensez que Dieu me donnerait encore un enfant? Je lui ai dit, pourquoi un? Ah, j'ai vu le compagnon transpirer. Hein. Je lui ai dit, commence à mettre de l'ordre dans ta vie et tu verras le Seigneur faire les choses. Et finalement, quelques temps plus tard, ils ont décidé de se marier et elle m'invite au mariage. Elle me dit, par contre, toute ma famille sont contraires à l'évangile, vous comprenez, pasteur? Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Règle ta vie. Moi, je suis bien d'accord de venir prier pour vous à la maison en disant, Seigneur, fais-leur du bien. Tu es fidèle et bon, Seigneur, hein, et tu agiras en conséquence. Et donc, le jour du mariage, on y va avec ma femme et on nous a mis à table avec son père. Quelqu'un qui était contre l'évangile, contre les pasteurs, contre tout ce qu'on veut. Et on a discuté un bon moment et au bout de 45 minutes, tu me dis, mais du coup, pourquoi vous connaissez ma fille? Vous faites quoi dans la vie? Je lui ai dit, pasteur. Et là, il y a eu un grand moment de silence. Ah, je ne m'attendais pas à voir des pasteurs si sympas. Sa fille, elle nous regardait du loin et disait, qu'est-ce qui va se passer à la table? Mais le Seigneur a permis, finalement. Et vous savez quoi? Quelques temps plus tard, elle m'appelait pour me dire qu'elle attendait un enfant. Et le Seigneur l'a aussi sorti de tous ses tocs. Elle qui ne pouvait plus sortir de chez elle, elle avait pu retrouver du travail, remettre sa vie dans le bon ordre. Parfois, on ne mesure pas les conséquences de nos décisions. On ne mesure pas les conséquences de nos actes. Et quand la parole de Dieu nous dit de purifier, c'est purifier tout à l'intérieur, nos cœurs, mais aussi notre foyer. Peut-être qu'il y a des choses qui sont restées là et qui datent d'un certain temps, excusez-moi de dire ça, des trésors de guerre. Des trésors qu'on a acquis d'une manière injuste, indigne. Et Dieu ne peut pas bénir cela. Alors, finalement, il dira de faire du nettoyage. Et il est question pour nous, pas seulement d'abandonner les idoles, de purifier le temple, mais de revenir vers le Seigneur. Luc chapitre 1, verset 17, il dira, il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Sommes-nous bien disposés ce matin ? Êtes-vous sûr ? Vous ne savez pas ce que c'est la suite. Mais est-ce que nous sommes bien disposés finalement à vouloir vivre cette présence du Seigneur dans notre vie ? Parce qu'il est question de purification personnelle. Si on a, entre guillemets, nettoyé notre foyer, si on a nettoyé ceux qui nous entourent, là il est question maintenant de notre cœur. 2 Timothée chapitre 2 verset 21-23, « Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles, ineptes, sachant qu'elles font naître des querelles. Voulons-nous être des vases à honneur ? Dieu ne déversera pas ses richesses dans un vase qui n'est pas propre. Dieu ne peut pas se servir de nous alors que nous voulions faire des bonnes œuvres, mais que l'intérieur est resté encore trop attaché au passé. Et il dira, fuis quoi ? Qu'avons-nous à fuir ce matin ? Y a-t-il des passions dans notre vie ? Le Seigneur te dit, fuis les passions. Et recherche justice, foi, amour, paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il faut que nos relations, et je dis il faut, je ne peux pas dire il faudrait, vous m'excusez, il faut que nos relations soient bonnes, pures, saintes, glorieuses pour notre Seigneur. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'incompréhension. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais une fausse note. Ça arrive les fausses notes, Sébastien ? Ah, ça arrive. On peut jouer de n'importe quel instrument, on peut faire une fausse note. On peut être motivé du plus grand amour, on peut finalement avoir des fausses notes dans notre vie. Mais combien c'est beau de dire « Ah, je me suis trompé. Allez, on recommence. On reprend. » Vous savez, avant d'arriver au moment où on loue le Seigneur, on a pris du temps pour répéter. Et je peux vous dire, il y en a des fausses notes. Et ce qu'on dit à chaque fois, on dit autant c'est catastrophique dans la répétition, autant après c'est merveilleux parce que finalement c'est le secours de Dieu, les anges de l'Éternel, les pianistes du ciel, hein, qui viennent nous secourir, les guitaristes du ciel, hein, il y a des guitaristes qui sont bons au ciel, hein, qui viennent nous secourir, même dans nos voix. Vous n'entendez pas le dimanche ? La voix des anges ? Non, on n'est pas seul à louer le Seigneur. Et si finalement nous sommes dans la présence du Seigneur, on ne peut pas dire on n'a entendu que moi. Parce que je ne serai jamais tout seul dans la présence du Seigneur. Le but c'est d'y être ensemble. Alors il est question de purification personnelle. Il dit le texte que finalement ils prirent tous ces dieux de pacotille, ces idoles, plus les boucles d'oreilles. Alors, je me suis dit, pourquoi les boucles d'oreilles ? Je vous explique. C'est que les boucles d'oreilles étaient effectivement des amulettes destinées à préserver l'oreille des sons et des paroles négatives. Aujourd'hui, ce n'est que, excusez-moi, de la déco. C'est, voilà, pour agrémenter. parce que vous êtes déjà belle de nature. Amen. Donc c'est un plus. Ce n'est pas l'essentiel, mais dans le passé, finalement, quand on lit dans la parole de Dieu, on voit qu'il s'était, entre guillemets, donné des formes de moyens, des porte-bonheur. Mais le vrai bonheur, c'est Jésus-Christ. C'est important pour nous aussi de regarder s'il y a des choses finalement qui sont en contraposition avec ce que nous voulons témoigner. Je ne peux pas parler d'un Christ vivant si encore, moi, sur moi, je porte un signe qui montre un Christ cloué à une croix. C'est juste ou pas? Il est vivant ou il est encore crucifié? Moi, je proclame qu'il est vivant. Amen. La croix n'a pas pu le retenir, la mort n'a pas pu le retenir. Donc, je proclame un Christ vivant. Et on voit que finalement, avant de prendre la route, Jacob, pour tordu qu'il était, il a compris qu'il fallait se séparer de ces objets. Il les a enterrés là où finalement personne ne devait plus les reprendre. Et seulement après, il a pris la route. Il avance. Et finalement, la parole de Dieu nous dit qu'il arriva, Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel. Dieu, vu la démarche de Jacob, a mis la peur dans les autres peuples et personne ne les a dérangés pendant le voyage. Parfois, il y a des peurs qui nous empêchent d'aller au Seigneur. Mais si vous faites ce que le Seigneur attend de vous, le Seigneur mettra la peur ailleurs. Amen. Qui voudrait être libéré de ses peurs ce matin? Seigneur, moi, j'ai peur. Des fois, on m'a dit, pasteur, j'ai peur qu'en m'engageant avec le Seigneur, je dois tout abandonner. N'aie pas peur, c'est une certitude. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'abandonner avec joie parce que tu vas te rendre compte que finalement, ils t'ont privé de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que Jacob, finalement, il arrive là où il doit arriver et le Seigneur l'amène à Luz, qui veut dire amandier. C'est intéressant de regarder parfois pourquoi la parole de Dieu nous donne autant de détails. Amandier. Et je vous rappelle que l'amandier, c'est aussi un symbole de vigilance divine. D'ailleurs, vous connaissez ce texte de Jérémie, chapitre 1, versets 11 et 12, qui dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis « Je vois une branche de l'amandier hâtif. » Il dit « Tu as bien vu, car je me hâte d'accomplir ma parole. » Alors Jacob, il est en train de revenir au lieu de la révélation. Jacob est en train de faire finalement marche arrière par rapport à ce qu'il a vécu dans le monde. Il revient à la source, à Dieu. Et parce qu'il revient à Dieu, pas seulement il doit seulement s'attacher à la révélation, mais aussi à l'accomplissement de la révélation. Et pour nous, il est important de savoir que le Seigneur revient bientôt. Dis à ton voisin, mon frère, ma sœur, ce matin, le Seigneur revient bientôt. Mais avec conviction, si tu n'es pas convaincu, je reprends le message au début. Le Seigneur revient bientôt. Et en effet, la parole de Dieu me dit de regarder à ce qui se passe autour de moi, parce que tout me confirme que Christ revient bientôt. Nous aussi, nous sommes amenés finalement dans un lieu où le Seigneur voudrait qu'on soit capable de réaliser que son retour est proche. Seigneur, on aimerait habiter un village que de chrétiens. Hein? Tu ouvres tes fenêtres, alléluia mon frère. Alléluia ma sœur. Que fais-tu? Vais prendre un café et ramène ta Bible. Ça serait merveilleux, hein? Pendant que vous êtes en train de piocher dans le jardin, de prendre soin des tomates, vous entendez les autres qui chantent alléluia. Unissons-nous en cœur et les tomates pousseront encore mieux. Ça serait merveilleux. Mais la réalité, c'est quoi? Que parfois, on ouvre les fenêtres, on a juste envie de les refermer vite fait. Parce que ce n'est pas des alléluia qu'on entend. Et ce n'est pas de la gentillesse qu'on voit. Ce n'est pas de l'espérance ou quelque chose qui donne encouragement qu'on entend autour de nous. Mais tout nous amène à dire, Seigneur. Et le Seigneur voudrait que parmi toutes ces choses, on puisse se dire, Seigneur, ta parole me dit que, et puisque c'est en train de s'accomplir, je sais que ton retour est proche. Amen. Que le Seigneur nous donne, frères et sœurs, de faire attention à la mendier. La parole de Dieu nous dit que Dieu apparut à Jacob après son arrivée à Padam-Aram et il le bénit. Lorsque nous sommes en Christ, notre plénitude est éternelle en Dieu. Lorsque nous venons au Seigneur, c'est dans l'obéissance que finalement la bénédiction prend source. N'attendons pas à vivre la bénédiction alors que nous vivons dans la désobéissance. Trouvez-moi dans la Bible quelqu'un qui, parce qu'il a désobéi, il a été béni. Et moi, je change de travail. Parce qu'à ce moment-là, ce serait un travail. Aujourd'hui, je ne vis pas un travail. Je vis l'appel. Parce que je sais que mon Dieu est vrai et juste. Il est vérité. Et que ce ne serait pas normal que je puisse demander à Dieu de bénir alors que je suis dans la désobéissance. Alors Jacob, celui qui était quand même considéré comme quelqu'un de pas honnête, il va recevoir la bénédiction de Dieu. Il dit le texte, et Dieu le bénit. Mais qu'est-ce qu'est véritablement la bénédiction de Dieu? On disait vendredi lors de l'étude biblique, certains considèrent que la bénédiction, c'est lié au bien-être. Puisque je vis et je jouis d'un certain bien-être, c'est que je suis béni. Si je n'ai pas ce bien-être, ben je ne suis pas béni. Alors ça, c'est une erreur énorme, parce que la parole de Dieu, ce n'est pas ce qu'elle nous dit. Aujourd'hui, existent des théologies de la prospérité qui finalement amènent dans l'erreur plein de personnes. Alors pourquoi vous le dites, pasteur? Parce qu'il faut les dénoncer. On ne peut pas penser acheter quoi que ce soit auprès de Dieu. Vous entendrez parfois certains dire « si tu donnes, Dieu te donne ». Il y avait un homme, Simon, appelé le magicien, qui voulait payer pour avoir le Saint-Esprit. Et quelle fut la réponse de Pierre? Maudit soit ton argent. On ne peut pas acheter. Et il le renvoie. Et il dit, mais prie pour moi. Non, non, prie toi-même pour que Dieu te pardonne de ce que tu viens de penser, imaginer, pouvoir acheter. Est-ce qu'on peut acheter la vie éternelle? Est-ce qu'on peut acheter le salut? Est-ce qu'on peut acheter quoi que ce soit vis-à-vis de Dieu? Dans les hommes, oui, on peut acheter. Hein. Dans le monde, on dit que tout a un prix. Mais pas avec Dieu. Alors que Dieu nous garde de tomber dans le piège de croire que la bénédiction, c'est lié à la richesse et que la richesse est un signe de bénédiction. Loin de là. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas bénir le fruit, puisque la parole de Dieu nous dit que Dieu bénira notre départ, notre arrivée. Dieu bénira le fruit du jardin, Dieu bénira le fruit de nos animaux. N'est-ce pas? Il n'y a pas de souci avec ça et Dieu n'a pas de problème avec ça. Le problème, c'est quand l'argent, la richesse, le pouvoir deviennent finalement et prennent la place de Dieu dans notre vie. Et c'est là que Dieu n'est pas plus d'accord avec nous. Et là, il n'est pas question de bénédiction. Alors j'ai commencé à regarder un peu dans ce texte. Verset 9. Il est question finalement qu'elle ne peut s'obtenir que si nous demeurons dans l'obéissance à sa volonté. Verset 9, qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu apparut encore à Jacob après son arrivée à Padam-Aram. Où est-ce que Dieu lui a dit d'aller? Là. Qu'est-ce qu'il a fait, Jacob? Il y est allé. Et qu'est-ce que Dieu a fait? C'est simple. Dieu dira à Abraham, quitte ton père, ta mère, quitte ton pays, va là où je t'indiquerai et je te bénirai. Qu'est-ce que Dieu a fait? Premier point. Simple. Deuxième point. La bénédiction de Dieu ne peut s'accomplir que si nous acceptons de changer. Et finalement, si vous regardez bien au verset 10, Dieu a un discours avec Jacob et lui dit « À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelleras Abraham. Jacob était celui qui prend, pardon, Israël. Pas Abraham. Abraham après. Jacob, celui qui prend par le talent, qui supplante. Celui qui essaie toujours de prendre le dessus sur les autres. Celui qui triche. Celui qui réfléchit à la manière pour tirer le plus grand parti, peu importe pour les autres. Et Dieu veut qu'il change. Finalement, Israël, héritier de la promesse. Mais je voudrais vous dire que ça, c'est le projet de Dieu aussi pour vous. Mais est-ce que vous acceptez de changer de prénom ? Êtes-vous sûr que le prénom que Dieu va vous donner, vous allez l'aimer ? Moi, je l'ai voulu à mes parents. Ils m'ont donné un prénom, Seigneur. Pitié. Non, ce n'est pas Emmanuel. Je ne vous le dirai pas. En effet, Jacob, il est l'exemple par excellence de l'homme charnel, au nombre des défauts, qui est complètement régénéré après, quand il change de nom, par la grâce imméritée de Dieu. Amen. Quelle grâce! Finalement, la bénédiction de Dieu nous permet de connaître le Dieu Tout-Puissant. En effet, on le voit au verset 11, Dieu lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Dieu se révèle finalement à ce nouveau personnage, à ce nouvel homme, comme le Dieu Tout-Puissant. On a besoin de révélations de Dieu dans notre vie. Pas des révélations à tout bout de champ, de la révélation de Dieu. La semaine dernière, j'ai eu une discussion avec quelqu'un et je vous dis sincèrement, je pleurais au fond de mon cœur. Parce qu'elle fonctionnait qu'à bout de « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Et au bout de quelques temps, Dieu lui avait dit tout et son contraire. Et moi, je ne crois pas à ça. Dieu ne change pas de plan, ne change pas de situation comme ça au gré des vents. Et ce n'est pas les circonstances qui font Dieu dire quelque chose ou quelque autre chose. Mais Dieu est clair dans son projet, dans sa vision. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu s'éleva là, au-dessus de l'endroit où il lui avait parlé. Waouh ! Quel bonheur ! Non ? Finalement, il nous donne le privilège d'être sous sa grâce en tout et pour tout. Sommes-nous conscients que là, Dieu est présent ? Croyez-vous que Dieu est présent dans ce lieu ? Non pas parce que je vous le dis, mais parce que finalement, ça devrait être votre désir. Si ce n'était pas le cas, mais je ne vois pas le sens d'être là ce matin, vous serez resté au lit, dormir, vous serez allé à la pêche, vous aurez profité du soleil, alors que dans d'autres régions, on fait des boules de neige. Et finalement, il dit la parole de Dieu qu'il donna le nom de Bethel à l'endroit où Dieu lui avait parlé. Finalement, il appelle Bethel. Maison de Dieu, là où Dieu lui a dit, tu vas t'installer. Moi, je voudrais vous encourager ce matin à vous installer dans la maison de Dieu, à ne pas être des voyageurs, à ne pas être des locataires, à ne pas être des vacataires. Si de temps en temps le Seigneur m'appelle, me donne une mission, je viens, mais être habitant dans la maison de l'Éternel. Vous attachez à Dieu, vous attachez à sa parole, à sa volonté. Et si le Seigneur ce matin vous montre dans votre cœur qu'il y a des choses dont vous devez vous séparer, s'il vous plaît, je vous en conjure, faites-le. Ne tardez pas. Ne laissez pas ces choses finalement vous empêcher de vivre dans la présence de l'Éternel. Je vous invite à incliner vos têtes, à fermer nos yeux. Seigneur, encore ce matin, ta parole nous amène, Seigneur, à un examen du cœur. De la même manière que tu as agi avec Jacob, Seigneur, qui n'était pas un homme parfait, comme nous ne sommes pas parfaits. Mais Seigneur, ta bonté, ta miséricorde a montré que tu voulais sauver son âme. En donnant ton Fils à la croix pour nous, tu as montré que tu veux sauver notre âme. Ta parole nous dit que tu veux faire de nous tes enfants, concitoyens du ciel. Seigneur, nous désirons non plus vivre, Seigneur, dans le vent de ce temps. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, sous les tentes de la méchanceté. Mais nous désirons, Seigneur, faire de ta demeure notre maison. Nous voulons, Seigneur, habiter dans ta présence. Nous te prions, Seigneur, que notre vie, Seigneur, malgré les erreurs qu'on a pu commettre, Seigneur, tu puisses nous donner dans ta bonté, dans ta miséricorde, le pardon. Et Seigneur, encore ce matin, tu offres le pardon à celui et celle qui finalement abandonne son ancienne vie. Celui qui abandonne ses anciens parcours, ses anciens principes, tout ce qui a fait sa vie dans le péché, dans l'idolâtrie. Seigneur, nous te prions encore ce matin, viens, Seigneur, purifier nos cœurs et nos mains. Et donne-nous de vivre la véritable bénédiction. Seigneur, je crois ce que ta parole me dit. Et je crois que même ceux qui ont perdu leur vie en martyr, tel que ta parole nous le dit en Hébreu 11, c'était des hommes et des femmes bénis de l'Éternel. Seigneur, la bénédiction que toi tu donnes n'est pas celle que les hommes proposent, parce qu'elle est éternelle la tienne, Seigneur. La rouille ne peut pas la toucher, le voleur ne peut pas la prendre, parce que nous voulons la garder serrée dans notre cœur. Mais surtout, Seigneur, nous désirons nous faire un trésor dans le ciel, pas ici-bas. Seigneur, je te prie encore que ta grâce, Seigneur, soit celle qui se révèle au cœur de chacun. Et que dans ta miséricorde, Seigneur, oui, Seigneur, nous puissions demeurer dans ta présence, mais que toi, tu puisses demeurer éternellement dans notre cœur. Nous te le demandons, Jésus-Christ. Amen.